Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe sur les ondes de CKRL 89.1. David Rocketship et
Patrick Anctil. Fréquence d'Outre-Tombe spécial couvre-feu zone orange, mais à Fréquence d'Outre-Tombe, qu'on soit en zone rouge, en zone orange, on s'en fout. On est toujours en zone obscure.
C'est toujours aussi effrayant. On est là pour vous accompagner hein, dans l'apocalypse à venir. Apocalypse oui. Déjà bien entamé.
Oui, 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 avec plein de belles nouvelles histoires. Et qu'est-ce que t'as fait récemment, David? As-tu écouté des nouveaux films ou...
Ben oui, comme à l'habitude, j'ai regardé quelques films. Je me suis abonné à Shudder. Il y a déjà un mois ou deux, je pense qu'on n'avait pas vraiment parlé en onde. Mais Shudder, là, pour les... Pour les curieux, ben c'est un genre de Netflix, mais sur lequel il n'y a que des films d'horreur, ou ben films ou documentaires ou tout ça, mais c'est tout relié à l'horreur, puis un petit peu de science-fiction, là. Mais ouais, Shudder, c'est vraiment, vraiment très fin. Il y a beaucoup de morceaux vraiment cool là-dessus.
Ouais, ouais, vraiment. Puis là, il va falloir qu'il achète un forfait publicitaire parce que tu viens de déployer pas mal.
On vient d'en parler.
Moi, j'attends The Stand, Le Fléau. Ouais, okay. La nouvelle série, les critiques sont mitigées, mais le remake dans le fond sort sur une plateforme que je n'aimerais pas parce qu'ils n'ont pas acheté de forfait publicitaire, mais ça sort demain. Donc j'avais beaucoup aimé à l'époque ben, Le Fléau de Stephen King et là, je pense que le film ça durait 4 heures.
Ouais, je me rappelle.
4 heures et demie même.
Je me rappelle quand j'allais au club vidéo éclair quand j'étais jeune, Le Fléau venait en genre 3 VHS. Là.
Oui, exactement. 3-4 VHS. Donc j'ai hâte de voir. Le... Ça sort demain, là. Demain ou après-demain, The Stand. Et sinon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, The Possessor arrive aussi sur une plateforme vidéo.
Ah, cool. Puis ils doivent l'avoir probablement au Club Vidéo Centre-Ville, si vous aimez louer des films.
Oui, oui, oui.
Ce que j'aime encore faire, là, beaucoup,
beaucoup. Oui, oui. Moi aussi. D'ailleurs, je t'inquiète, ce soir, on est passé devant, puis il était fermé.
Oh, oh. Pas inquiéter, en tout cas, j'espère. Mais je pense qu'ils sont réouverts, là, je sais pas.
Oui,
ouais,
oui, oui, oui.
OK,
ouais.
On va l'espérer. Vidéo Centre-Ville, on peut les plugger même s'ils payent
absolument,
pas.
Absolument, tout le temps.
Puis dans ma main aussi, Pat, il y a... Le film qui est au cinéma ces temps-ci, mais qui est aussi disponible sur les plateformes, est Young Promising Woman. Je connais pas le titre en français, là. C'est une jeune femme prometteuse, peut-être.
Ok, ça me dit rien.
Puis c'est un genre d'American Psycho, mais inversé, là. C'est une jeune femme, justement, prometteuse, qui, elle, leurre des hommes chez elle, puis bon, ben, les tue finalement.
C'est un slasher féminin, genre.
Oui, exact. Fait que ça peut être bien intéressant, bien trippant.
Oui.
Puis,
c'est d'actu, c'est au goût du jour.
C'est ça, exact. Puis j'ai lu qu'il y avait. Que c'était bien, bien parsemé de petites critiques sociales actuelles. Là. Donc, bref, c'est dans mes prochains. On va pouvoir en reparler dans les prochaines semaines.
Yeah. Et si on revenait à nos moutons d'horreur, qu'est-ce qu'on a ce soir à Fréquence d'Outre-Tombe?
À nos moutons noirs à Fréquence d'Outre-Tombe. Moi, de mon côté, Pat, on se déplace dans Charlevoix.
Yeah.
Dans une petite route de campagne, pas très loin de Saint-Urbain. Ceux qui connaissent un peu, là, c'est en allant dans le parc des Grands Jardins.
Oui, je connais ça.
Puis, on va se déplacer dans une maison de briques rouges, une grande maison de briques rouges. On est à la fin des années 70, puis on a un homme qui accueille des chambreurs et on va suivre son histoire. C'est inspiré d'une histoire vraie, je tiens à le mentionner. C'est inspiré d'une histoire vraie, mais on a évidemment inventé plein de faits, puis... c'est ça. Bref, ça reste romancé, mais c'est inspiré d'un cas vécu.
Comme toute bonne légende, c'est un fond de vérité avec ben des épices pour que ça lève.
Yes, exact. Toi, de ton côté, Pat?
Ben, de mon côté, je sais pas si tu te rappelles, lors d'une émission précédente, on avait déjà abordé le phénomène des vies antérieures.
Oui, exact. On avait, je pense...
reçu un appel.
De mémoire, on avait reçu un appel. C'était Ariane de la Sombre Forêt.
Oui, justement, pas très loin de Charlevoix.
Ah ouais, c'est vrai. Puis elle nous avait appelé, elle avait eu un genre de flash où elle s'était vue dans une
vie antérieure.
Une vie antérieure, ouais, exact. Ah, cool.
Donc voilà, on va réexplorer le phénomène, mais on va s'apercevoir que c'est peut-être à nos risques et périls d'emprunter le chemin pour découvrir qu'est-ce qu'on était autrefois.
C'est pour les explorateurs bien avertis seulement.
Ouais, De l'insolite.
Donc, vous écoutez Fréquence d'Outre-Tombe, vous êtes sur CKRL 89.1 et dans la prochaine demi-heure, on va explorer l'inexploré. On va...
expliquer le paranormal.
Et flirter avec l'inexpliqué.
Et l'épouvante.
Donc, on va y aller avec ta première histoire. Pat, qu'est-ce que t'en penses?
Yes, on y va. Cette histoire s'intitule « L'histoire de la vie antérieure ». Judith était fascinée par le phénomène des vies antérieures. Elle lisait beaucoup sur le sujet depuis un moment, car elle se sentait interpellée par la chose. Depuis qu'elle était enceinte de son premier enfant, elle avait comme des flashbacks par moments, ainsi que des rêves récurrents. Dans ses flashbacks, comme dans ses rêves, elle avait l'impression de regarder un film. Elle ne comprenait pas l'histoire qu'elle voyait, mais les scènes du film lui donnaient un semblant de déjà-vu ou déjà-vécu. Ses rêves étaient tellement intenses qu'elle avait l'impression de sortir de son corps pour aller habiter celui d'une autre personne dans le passé. Elle appelait ça ses vols de nuit. Malgré l'intensité de ce qu'elle vivait dans ses rêves, elle n'arrivait pas à obtenir toutes les réponses qu'elle voulait. Il lui manquait certaines clés pour ouvrir certaines portes. Quelque chose lui cachait quelque chose. Elle apprit dans un de ses livres occultes qu'une méthode utilisant l'auto-hypnose permettait d'accéder au chemin qui mène aux vies antérieures. Il fallait se fixer longtemps devant un miroir jusqu'à sentir l'évasion de notre corps. Un soir, Judith alluma des bougies et s'installa devant son plus grand miroir. Au travers du miroir, son regard croisait le sien. Elle avait des yeux de poignard dirigés envers elle-même. Après de longues heures, elle commença à se sentir étourdie et le paysage de son appartement s'effaça. Elle vit apparaître dans son miroir l'histoire qu'elle avait tant vue, mais cette fois-ci avec plus de détails. Dans cette vie antérieure qui l'intriguait tant, elle était dans la peau d'un homme, d'église à la tête d'une paroisse de campagne. En plus des activités relatives aux messes, aux mariages et aux baptêmes, l'homme s'adonnait à des pratiques solitaires plus insolites puisqu'il était persuadé qu'une force mystérieuse hantait son église. Il le ressentait au travers de sa chair. Il pratiquait donc des rituels de conjuration au sous-sol de l'église. Il voulait conjurer le mauvais sort. C'était ces fameux rituels que Judith pouvait observer en partie dans ses rêves et ses flashbacks. Pendant qu'elle continuait à se fixer intensément dans le miroir, toujours auto-hypnotisée, elle se mit à trembler. Dans le miroir, elle vit l'homme d'église rentrer en contact avec une créature immonde à l'apparence monstrueuse un soir où il procédait à un de ses rituels de conjuration. Judith sortit alors de son hypnose en sursaut et toute moite de sueur froide. Ce qu'elle vit était si horrible que l'image lui resta imprégnée dans sa tête, même si elle ne comprenait pas vraiment le sens de cette vision. Après cette expérience troublante, elle décida qu'elle arrêterait pour un moment d'essayer de creuser le mystère de son passé et de ses anciennes vies. Elle arrêterait donc les recherches et les séances d'auto-hypnose. Car après tout, à quoi bon tenir tant au passé quand le futur d'avoir un enfant était tellement plus important pour elle? Malgré tout, avec les semaines et les mois qui passaient, la vision d'horreur continuait de la hanter dans ses rêves lorsqu'elle dormait. Comme si Judith avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Des flashbacks de la créature horrible au visage atrocement mutilé revenaient sans cesse dans son esprit. Un jour, le chum de Judith revenait du travail à l'appartement. Il retrouva celle-ci inconsciente sur le plancher du salon, avec du sang qui coulait d'entre ses jambes. Il appela le 911 et Judith partit en ambulance à l'hôpital où son état inquiétait tellement les médecins qu'ils décidèrent de déclencher l'accouchement malgré son état comatique. L'accouchement se déroula très mal. Le bébé mort-né sortit tout déformé, pâle avec des taches noires crevassées de sang un peu partout sur la peau. Toujours dans un coma profond, Judith cauchemardait intensément. Elle voyait la créature monstrueuse. Elle était prisonnière et elle comprit ce qui se passait. Elle avait osé pénétrer le royaume interdit des vies antérieures appartenant au passé. Elle avait osé découvrir des visions de l'interdit, appartenant au plan malicieux des ténèbres. Elle ne savait toujours pas ce que représentait cette créature maudite du passé, mais elle savait que cette créature, qui avait enlevé la vie de son enfant pour la faire payer d'avoir joué avec les passages du rêve et du temps.
La prochaine histoire s'intitule « La sordide maison de briques rouges ». Quick! Le son réveille Thierry. Il jette un regard rapide sur son réveil. 2h19 du matin. Est-ce qu'il a bien entendu ou est-ce qu'il a rêvé à ça? Quick! Ce son, si familier, mais pourtant improbable. Quick, quick, quick! Pas juste improbable, impossible. Thierry est présentement dans sa maison. Une grande maison de briques rouges située sur le bord du chemin 126, un peu passé Saint-Urbain. Quick, 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 quick! Le son semble venir de la salle à manger, à l'autre bout de la maison. Il reconnaît le son, mais refuse de se convaincre que c'est ce qu'il pense. C'est impossible. Il doit y avoir une explication. Il doit aller voir et en avoir le cœur net. Il pousse la couverture et immédiatement, la froideur de sa chambre le saisit. Sa maison, vieille, mal isolée, s'est laissée pénétrer du glacial climat de février. Hésitant, il pose un premier pied sur le plancher qui l'accueille en le mordant d'un croc glacé, tellement il est froid. Il finit par déposer son deuxième pied sur le sol frigorifié et fait quelques pas dans la direction de la porte de sa chambre, entrouverte. Il atteint la porte et l'ouvre tranquillement, en essayant de ne pas faire de bruit, comme s'il avait peur d'être repéré. Le long couloir sombre se déroule devant lui. Tout au fond, il perçoit l'extrémité qui donne sur la cuisine. Elle aussi, faiblement éclairée par le modeste quartier de lune bleutée qui rend une lumière aussi froide que l'air ambiant. Il ne peut pas voir quoi que ce soit, mais il lui semble pouvoir percevoir une ombre en mouvement dans le faible éclairage naturel. Il continue de s'avancer dans le couloir. Une seule et unique pensée lui martèle la cervelle. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Si c'est impossible, pourquoi est-ce que t'es aussi tourmenté qu'il peut s'empêcher de penser? Il atteint finalement la cuisine. Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit de façon claire, mais il peut voir, à contre-jour, contre le grand châssis qui laisse passer la lumière bleutée de la lune reflétée par la neige qui recouvre l'extérieur, non pas une, mais trois silhouettes. Elles sont bien dans sa cuisine. Il les reconnaît. Trop bien. Elles sont si familières, mais pourtant improbables. Impossible, qu'il continue à se dire. Puis, sa surprise fait place à l'effroi et paralyse tout son corps. Pour bien comprendre la portée tordue et sinistre de la situation de laquelle est captif notre pauvre Thierry, faut reculer un peu dans le temps. Toujours dans ce patelin de Charlevoix. Thierry est venu au monde à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Ses parents vivaient dans cette grande maison de briques rouges. Sa mère a connu des complications lors de sa naissance puis est malheureusement décédée en le mettant au monde. Il a donc vécu toute sa vie seul avec son père. Leur relation n'a jamais été très humaine ni vraiment chaleureuse. Thierry et son père se contentaient de faire le nécessaire pour s'occuper de la maison. Leur existence se résumait à s'assurer d'avoir de quoi manger, couper assez de bois pour passer l'hiver, puis entretenir le pick-up puis le terrain. Jamais il y avait de conversation profonde, et Thierry avait toujours perçu son rôle existentiel comme étant s'acquitter des tâches, puis d'attitude. Il y avait dans la fin trentaine quand son père est décédé d'un accident de la route. Il a alors hérité de la maison, puis des quelques économies de son père, la grande maison de briques rouges, sur le bord de la 126. Puis il a toujours continué à s'en occuper, sans trop se poser de questions. C'était tout ce qu'il savait faire de toute façon. Après un certain temps, il voyait que ses économies commençaient à fondre tranquillement par contre. Puis pour la première fois de sa vie, il s'est vu un petit peu stressé par sa situation financière. En 1978, il alla passer Noël chez son oncle à Malbé. Il y avait plusieurs membres de la famille élargie, des cousins, des cousines, des grands-oncles, des grandes-tantes. Il placotait tranquillement avec une cousine éloignée, puis elle lui expliquait qu'elle et son mari agissaient comme famille d'accueil pour une personne avec un handicap. Il existait un programme gouvernemental, puis n'importe qui avait une maison avec une chambre de trop pouvait héberger quelqu'un dans le besoin, puis recevait une généreuse allocation pour s'en occuper. Sa cousine lui donna donc l'idée qu'il pourrait essayer de faire pareil. Il était seul dans une grande maison, de toute façon, ça lui ferait de la compagnie, puis ça l'aiderait à joindre les deux bouts. Donc Thierry était parti avec cette idée-là de son party de Noël. Il alla donner son nom au centre communautaire le plus proche. On allait le rappeler si jamais il y avait quelqu'un qui cherchait une famille d'accueil. Quelques semaines plus tard, on le rappelait avec la bonne nouvelle qu'on y avait trouvé quelqu'un d'idéal. François, 19 ans, avait passé son enfance et son adolescence dans un orphelinat. Ses parents l'avaient abandonné quand il avait que 4 ans, alors qu'il a reçu un diagnostic de trisomie 21. Thierry voyait pas trop d'inconvénients. Oui, le jeune homme avait un déficit intellectuel grave, mais semblait tout de même avoir un bon tempérament. Mais surtout, il était en bonne forme physique. Il pourrait l'aider avec les tâches sur le terrain puis à la maison. Un peu comme la relation qu'il a eue avec son père, il démontrait jamais trop de signes d'affection ou de chaleur humaine au jeune François. Aussi, il arrivait aux jeunes de faire des crises, quand ils étaient contrariés. Thierry savait pas trop comment gérer ça, fait qu'il l'ignorait. La plupart du temps, ça finissait par passer tout seul, de toute façon. À quelques occasions, par contre, c'était devenu vraiment intense. Puis Thierry avait réagi de la seule façon qu'il connaissait. Avec violence. Un matin, le jeune François était particulièrement entêté. Il voulait rester dans sa chambre. Surtout, il voulait pas encore aller passer la journée à travailler. Il s'était agité puis avait agrippé Thierry au collet. Lui, il avait répondu avec un sincère coup de poing en pleine face, qui envoya le jeune direct au plancher. Là, Thierry lui avait balancé quelques coups de pied dans le ventre puis dans les côtes. Puis il avait tout de suite redirigé le blâme vers lui, comme le font les abuseurs et les manipulateurs. « Bon, c'est ça, regarde ce que tu m'as fait faire, là. » Puis il s'était raisonné, en se disant qu'il faut bien lui apprendre à vivre à ce jeune-là. Mais malgré tout le tumulte et les irritants, Thierry était tout de même content. Avoir la charge de François lui donnait un chèque d'à peu près 600$ par mois. C'est pas pire pendant tout, 179-600$. Mais ce que Thierry réalisait pas, c'est qu'à chaque coup porté, à chaque injure envoyée, il abreuvait la version grandissante que François avait pour lui. Ça faisait environ 3 mois qu'il s'occupait du jeune François. S'occuper, c'est un grand mot. Quand le centre d'aide local l'appela à nouveau. On savait qu'il y avait plus qu'une place chez lui, puis on avait une deuxième personne à y référer, s'il voulait bien l'héberger aussi. Il s'agissait de Marie. Son handicap, elle, n'était pas intellectuel, comme François, mais plutôt physique, ou même esthétique. Mais là, pour bien comprendre, je pense que ça vaut la peine que je vous raconte l'histoire sordide de la jeune Marie. La pauvre Marie avait subi une attaque violente quand elle était enfant. Sa mère et elle avaient été sauvagement brutalisées par la créature la plus dangereuse qui soit. Un homme jaloux. C'est par un banal dimanche après-midi, l'été. Il faisait soleil, ça aurait pu être une belle journée. Mais lui, il a étranglé sa femme, la mère de Marie, avant de s'en prendre à elle, la jeune. Il a essayé de l'étrangler, elle aussi. Mais ses fortes mains d'adulte ont plutôt cassé la nuque de la pauvre enfant, laissée pour morte sur le plancher du salon, la tête étrangement posée sur son propre épaule, le cou tuméfié dans un angle exagéré, improbable avec le reste de son corps. Puis l'homme, si on peut encore l'appeler de même, il a mis le feu à la maison avant de s'enlever la vie dans une ultime démonstration d'extrême lâcheté. Les flammes ont fait rage pendant une grosse heure et demie, puis quand les pompiers ont finalement réussi à éteindre le feu, ils ont retrouvé Marie, miraculeusement encore vivante, avec une importante déformation au niveau du cou et du visage. Sa tête était restée tournée sur le côté, toujours dans cet angle tordu, presque inhumain. À cause de la chaleur, à cause du feu, la peau de son visage avait comme fusionné avec celle de son épaule. L'épiderme de sa tempe, de sa joue et de son menton se mélangeait à celui de son épaule dans un tissu texturé d'innombrables plis, de replis, de bosses et de fissures. Elle avait passé plusieurs années en orphelinat avant d'atterrir sous les soins de Thierry. Lui, donc, il en faisait pas trop de cas de quoi elle avait l'air. Elle faisait le ménage, elle lavait la vaisselle, elle cuisinait pour les trois. Tout allait relativement bien, tant qu'elle restait docile puis qu'elle rechignait pas trop. Puis si elle faisait mine de pas trop vouloir coopérer, ben Thierry lui balançait des insultes du genre « Tu vas faire ce que je te dis, sinon je te retourne à l'orphelinat. Peut-être que je pourrais te vendre au cirque, remarque bien, il pourrait faire quelques pièces avec un monstre comme toi. » Mais même si Marie avait entendu ces genres d'insultes toute sa vie, elle n'en était pas moins douloureuse. « On ne s'y habitue jamais », qu'elle se disait. Le pire, c'est quand il disait des affaires comme « Je comprends ton père d'avoir essayé de te tuer. » Malgré tout, la situation profitait quand même bien à Thierry. Il y avait quelqu'un pour s'occuper de la maison, il recevait son deuxième chèque à tous les mois. Ce qu'il n'était pas capable de deviner, par contre, c'était que sous les traits massacrés et tortueux de Marie, il y avait une haine grandissante à son égard. Une haine de plus en plus viscérale et tangible, qui bouillonnait en elle. Après environ 6 mois de cette tumultueuse cohabitation entre Thierry, François et Marie, il reçut un nouvel appel du centre d'aide. On avait trouvé quelqu'un pour remplir sa troisième et dernière chambre. Un homme âgé d'une quarantaine d'années, prénommé Albert. Albert était paraplégique. Il avait eu un grave accident de voiture une dizaine d'années auparavant, puis avait perdu l'usage de ses jambes. Thierry l'accueillit tout de même, Albert. Il pourrait évidemment pas contribuer beaucoup, mais bon, il venait avec un chèque du gouvernement, c'est ça qui compte. Mais ça a pas pris grand temps avant que Thierry se tanne de son nouveau pensionnaire. Non seulement il pouvait pas bien aider, mais il lui répondait et lui tenait tête de façon quotidienne. Quand Thierry maltraitait le pauvre François ou insultait la jeune Marie, Albert s'empressait de lui dire sa façon de penser. Il s'est mis à se demander si ça serait pas mieux de se débarrasser de lui, si la location mensuelle valait vraiment la peine. Mais c'était pas le caractère entêté ou rebelle d'Albert qui agaçait le plus Thierry, étrangement. Non, ce qui jouait vraiment avec ses nerfs, au point presque de le rendre fou, c'était le bruit que faisait sa chaise quand il se déplaçait dans la maison. Quick, 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 quick. À toute heure du jour, puis même des fois dans la nuit, ils pouvaient entendre cet éternel grincement métallique que laissaient derrière eux les roulements à billes mal lubrifiés du fauteuil roulant. Quick, 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 quick. Cette année-là, à Noël, Thierry est retourné réveillonner dans sa famille, à Amalbay. Il en a profité pour discuter avec sa cousine éloignée puis son mari. Sa cousine lui raconta qu'elle avait été atterrée cet été, après qu'un enfant dont elle s'occupait depuis 2 ans était malheureusement décédé des complications de sa maladie. Thierry était curieux. « Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? » lui demanda. « Ben, c'est à toi de t'occuper des arrangements funéraires, mais le gouvernement te donne 6 000$ pour couvrir les frais. » L'information se grava directement dans le cerveau de Thierry. Il se dit que ça pourrait être une option, sait-on jamais. Puis dans la première semaine de janvier, pendant qu'il viroyait dans son lit dans le milieu de la nuit, il entendait Albert qui se promenait dans le couloir.
Quick, quick, quick!
Ce maudit brûlat allait finir par le rendre fou.
Quick, quick, quick!
Ah, ça en était trop! Il était plus capable de l'endurer. Sur un coup de tête, il se leva, sortit de sa chambre et alla directement chercher une grosse masse dans le garage. Puis revint dans la maison et sans dire un mot, avec un visage froid et sans expression, il se planta en plein milieu du couloir, barrant le chemin à Albert. De sa chaise roulante, celui-ci leva la tête vers Thierry pour constater qu'il brandissait la masse au-dessus de sa tête, prenant son élan pour la balancer sans retenue sur le crâne du pauvre homme. Le son fut sourd et mouillé de sang et de cervelle lorsque l'imposant outil fracassa la tête d'Albert comme une vulgaire pamplemousse. Une bouillie cérébrale vola sur les murs et sur le plancher du couloir. Le corps de la victime, pris de spasmes, lança ses bras dans toutes les directions pendant de longues secondes. Thierry constata même que ses jambes vibrèrent de quelques soubresauts, probablement pour la première fois depuis des années, qu'il se dit avec un sourire en coin. Lorsque la dépouille eut finalement fini de se tortiller, Thierry la glissa jusqu'à l'extérieur, puis alla la cacher dans la grange, sous une épaisse couche de foin. Il allait l'enterrer au printemps. Est-ce que François et Marie avaient eu connaissance du meurtre? Thierry n'en était pas certain. Ils en firent jamais mention, par contre, au point tel qu'il n'eut même pas à expliquer l'absence d'Albert. Leur quotidien à tous les trois était redevenu relativement paisible, jusqu'à ce soir de février, environ 1 mois après le sordide événement. Il se tient dans la cuisine et voit les 3 silhouettes devant lui. 3 silhouettes. La première se tient debout, fière et confiante. Il reconnaît François. Il tient un long couteau à la main. À côté de lui se tient Marie, la tête toujours tournée sur le côté. Il peut pas voir les détails de son visage, mais il peut sentir son regard lourd de colère s'enfoncer dans sa personne. Puis, Thierry pose son regard sur la 3e silhouette, la plus improbable des 3. Il devine Albert, assis sur son fauteuil roulant. Il peut apercevoir une énorme masse posée sur ses genoux. Ses mains poussent les grandes roues de sa chaise et il s'avance vers Thierry.
Quick, quick, quick!
Plus il s'approche, plus Thierry peut constater que sa silhouette s'arrête nette au niveau de son visage, comme si seule sa mâchoire inférieure était posée sur son cou. Pas de visage, pas de tête, tel qu'il l'avait laissé 1 mois plus tôt. La créature soulève la masse haut dans les airs et celle-ci s'abat sur la tête du pauvre homme, pour qui, pour la première fois, se retrouve du côté de la victime. Une énorme douleur lui emplit le crâne et il ne voit plus rien maintenant. Enfin, oui, il voit des étoiles. Puis sent une lame de métal froide et acérée lui pénétrer l'abdomen. Une fois, 2 fois, 3 fois, encore, encore. Paralysé par la peur et la douleur, il sent maintenant 2 mains menues se poser autour de son cou, comme possédé d'une force surnaturelle. Probablement nourrie par la haine et la douleur, elle serre sa gorge au point où il ne peut plus respirer. La sadique lame glaciale continue de pénétrer sa chair, puis bam, un nouveau coup de masse lui martèle le crâne, aussi fort qu'un tremblement de terre cette fois-ci. Agonisant dans cette immense douleur, Thierry se résigne et finit par se laisser transporter du côté des ténèbres, où il sait qu'il subira ce triste sort pour l'éternité. Aujourd'hui, On dit que le jeune François, trisomique, et la pauvre Marie, défigurée, occupent toujours la grande maison de briques rouges sur le bord de la route 126. Et on dit que lorsque l'on passe tout près, on peut y deviner une troisième présence. Si on tend bien l'oreille, on peut entendre, dans le milieu de la nuit,
« Quick, 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 quick. »
David, je m'en rappelle que tu m'en avais parlé de cette histoire-là. J'en avais déjà entendu parler. Effectivement, il y a un fond de vérité là-dedans, hein?
Oui, la fameuse maison de briques rouge près de Saint-Urbain.
Assez sordide.
Donc, ouais, triste et sordide.
Oui, triste et sordide. Donc, merci d'avoir écouté Fréquence d'Outre-Tombe. On en profite pour dire à nos auditrices et auditeurs qu'on a une super publicité qui roule à CKRL. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ces temps-ci, mais moi, j'ai eu la chance de l'entendre à plusieurs reprises et ça m'amuse bien comme pub de Fréquence d'Outre-Tombe.
Elle est très rigolote, en effet.
Yeah! Merci à CKRL de passer ça souvent.
Cool. Eh bien, on se parle la semaine prochaine. Merci à tout le monde.
Ciao!
Closing time. Come on. You can't do it.